suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci d'être là. C'est une nouvelle semaine qui commence. C'est un nouveau défi également. Nous sommes au lundi 5 août 2024. Il sont 11h sur votre radio. Vous comprenez sans doute que nous entamons l'émission Club de la Presse et nous sommes dans le premier numéro pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Guitomega est à la mise en onde. Gérald Akucha assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Comme toujours, vous le savez, vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Sky FM bien sûr à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat, l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités, confrères journalistes en studio. Gosson Ketomagnan, bonjour.
Bonjour Pascal. Gosson. Tous les auditeurs et auditrices, je dis bonjour le plus fraternel et mes salutations de la part du journal Liberté à nos lecteurs.
Voilà, à vos lecteurs. Et je rappelle tout simplement que vous êtes journaliste, au journal alors Liberté. Et vous l'avez si bien dit, vous avez salué les lecteurs alors du journal Liberté. Et, merci d'avoir répondu à notre invitation. Uriel Enyang, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à tous les Togolais de par le monde, bonjour à tous ceux qui sont sur le lit des hôpitaux, nous leur souhaitons un prompt rétablissement.
Directeur de publication de Méga Info, votre journal est dans les kiosques alors que ce matin, Jacques Dakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM, bonjour à nos techniciens. Et souhaitons également une bonne semaine de travail à tous ceux qui sont à l'écoute et souhaitons également prompte guérison à tous ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu des êtres chers également. Nous leur présentons les condoléances les plus attristées.
C'est très important. Alors, Jacques, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Vous êtes analyste politique et aussi vous êtes aussi dans les médias. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous parlons ce matin alors de des conducteurs alors de motos électriques et j'ai quelques-uns dans ce studio avec moi. Et c'est d'abord M. Arolo Kossi Edem. M. Arolo, bonjour.
Bonjour, M. l'animateur.
J'espère que vous allez bien.
Ça va très bien.
D'accord. M. Wiao Sonsina, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
On va bien.
D'accord. Alors, depuis un temps, Monsieur Arolo, depuis un temps, nous avons commencé par écouter, parler alors de vous, c'est-à-dire vous avez un problème à votre niveau, déjà dans la conduite même d'ailleurs des motos électriques. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Merci beaucoup. Je passe par l'occasion pour saluer la communauté togolaise et surtout les autorités de nous aider. Bon, il se fait que nous avons signé un contrat avec la société M-Auto Biespiro, qui nous a fait croire que notre quotidien de vie serait amélioré et que nous pouvons vraiment faire une économie de plus de 370 000 francs par mois parce que nous avons des problèmes avec nos motos et mécaniques. Donc, et leur moto nous permettra d'arriver et de pouvoir réaliser nos rêves. Bon, lors de la signature du contrat, bon, nous ne l'avons pas signé en temps. Bon, nous l'avons signé, mais ce n'était pas comme ça que ça devait se faire.
Étant donné que. Alors, quand vous dites que ce n'était pas comme ça que ça devait se faire, comment ça s'est fait?
Bon, merci beaucoup. Bon, le jour où ils nous avaient appelé de venir prendre les motos, parce que c'était l'échange. Ils nous ont parlé d'échange. Nous devons emmener nos motos et mécaniques pour prendre l'auto électrique. Donc, on était allés, bon, ils faisaient leur, je ne sais pas comment dire, bon, ils nous apprenaient comment utiliser leur moto électrique. Bon, à un moment...
C'est sous forme de recyclage.
Oui, oui, oui. Donc, vers les 17h, disons, vers la tombée de la nuit, bon, ils ont dit donc de venir signer ce papier pour prendre la moto. Donc, nous...
Le papier en question, est-ce que c'était le contrat?
Bon, ce n'est qu'après qu'on a vu que c'était le contrat. Donc, il ne l'avait pas remis. Et normalement, il devait avoir un huissier ou bien une autorité compétente pour vraiment... Ou bien, il devait nous donner le contrat, nous devions lire avant de venir signer. Et ce n'était pas fait. Donc, tout ce qu'il nous avait dit dans les vidéos, dans les rues et autres, chemin faisant, on a vu que ce n'était pas ça.
Concrètement, qu'est-ce qu'on vous a dit?
Bon, il nous avait dit qu'on devait utiliser les motos contre un travail de 2000 km par, au minimum par mois, jusqu'à avaler les 50 000 km. Là, on n'a plus de contrat et la moto nous reviendra de trop. Bon, chemin faisant, ils ne font que faire des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, le paiement de journalier obligatoire. Tu travailles ou tu ne travailles pas, tu trouves de batterie ou tu ne trouves pas, tu es obligé de payer pour les 3200. Et maintenant, ils ont émis une application et un portefeuille qui enlève automatiquement les 3200 dans, sur nos portables, sur nos comptes. Et même bon, ils nous ont dit nous devons avoir 4 batteries par jour. Mais nous n'arrivons pas à avoir les 4 batteries parce que quand tu vas dans les stations swap, c'est là où on échange les batteries. Bon, on te dit il n'y a pas de batterie. Donc, vous devez attendre un moment parce que si il y a des camarades qui sont avec toi, tu es peut-être le 5e ou le 6e. Donc, tu dois attendre et même des fois, tu es obligé de laisser celui que tu as pris, le passager, et il va prendre. Donc, tu perds. Donc, on a vu que non, avec nos motos thermiques, on était mieux malgré les difficultés. On était mieux. Bon, on a contacté le service. Ils nous ont dit non et ils vont nous appeler. Mais jusqu'à présent, non. Ils ont encore fermé les swaps. Et
si c'est-à-dire tu as l'endroit de recharge alors des batteries.
Oui, oui. Ce qui est, on se plaignait que ça ne nous suffisait pas d'augmenter. Nous, on se plaignait d'augmenter. Eux, ils se contentaient de fermer. Bon, quand tu prends 2 batteries seules, tu dois payer les 3200. Si tu prends une batterie, tu es obligé de payer les 3 batteries. Si tu prends 4 batteries, tu payes les 3200. Bon, si tu vas dans les 5, 6, là, tu payes des frais supplémentaires. Là, on dit que non, ça ne va pas. Par exemple, nos motos mécaniques, quand tu vas dans une station et tu payes un carburant de 3200, le carburant reste, tu travailles une journée, bien 2 jours, avant que ça ne finisse. Et pour eux, ils ont un délai pour ça. C'est ce qu'on ne comprend pas.
D'accord. Et voilà, monsieur Ouyao, est-ce que finalement vous avez eu à faire des démarches pour rencontrer les premiers responsables alors de ces motos électriques?
Sinon, en réalité, on les a écrits. Et jusqu'alors, et ils ne nous disent rien. Donc, ils ne nous appellent pas parce qu'on les a écrits. En réalité, ils devaient nous appeler.
Mais pourquoi ne pas faire une délégation pour aller rencontrer les autorités? Je veux bien parler alors des autorités, les responsables, les premiers responsables alors de ces motos. Oui, monsieur Ouyao.
Merci beaucoup.
Ah, monsieur Arolo.
Merci beaucoup, monsieur Pascal. Bon, on a fait ces démarches, mais la mauvaise foi fait que quand on arrive devant le portail, quand ils voient déjà...
La mauvaise foi au niveau des responsables?
Oui, oui, oui. Quand ils voient déjà le visage, c'est que, ce sont les revendicateurs. Bon, et ils disent à la sécurité, ils ne sont pas là. Bon, tu es obligé d'attendre là-bas, mais tu perds le temps. Ils vont te retirer les 3200, donc on est obligé encore de...
Alors, partir. Quand ils parlent des revendicateurs, est-ce que ça veut dire qu'il y a certains qui acceptent la situation ainsi et qui font avec?
Je ne peux pas dire qu'il y a des gens qui acceptent, mais nous sommes obligés. On nous a obligés à le faire parce que si tu perds ta journée, tu dois faire un prêt pour payer les 3200. Et bon, et ce qu'on n'arrive pas à rembourser. Donc, vraiment, c'est un casse-tête pour nous. Donc, on est dépassé. C'est pour cela on fait appel aux autorités.
Justement, c'est quoi l'appel que vous lancez? Peut-être puisque aujourd'hui, il est toujours important quand même d'aller par le dialogue, par des discussions pour arriver à trouver une solution à ce problème. Mais finalement, c'est quoi l'appel que vous lancez?
Merci beaucoup. Nous voulons vraiment une table de dialogue, de discussion, bien de négociation. Entre nous deux. Nous ne sommes pas leurs employés. Nous sommes des partenaires ou bien nous sommes des consommateurs. Ils ne doivent pas nous traiter comme si nous sommes des employés. Par exemple, bon, dans notre travail, nous sommes des humains, on tombe malade. Mais quand tu tombes malade, tu les appelles, premièrement, ils ne décrochent jamais l'appel. Par exemple, leur ligne verte, ils ne décrochent jamais. Et secondo, et quand tu leur dis non, ok, ils vont remonter votre problème
à l'hiérarchie.
Mais et chemin faisant, on voit que non, c'est pas ça. Quand tu fais 2-3 jours de repos, ou bien pour te soulager, mais te soigner, le quatrième jour, quand tu viendras prendre, c'est un problème. Là, on te dit de payer les 3 jours que tu as pris sans travailler, sans avoir touché à la batterie. Mais ces paiements-là qu'on fait, qu'on nous oblige de faire, ce n'est pas qu'après, on va vous donner des batteries. Non, tu paies ça comme ça en l'air. Sans avoir pris de batterie là, nous sommes dépassés. Et il n'y a que nos autorités qui puissent intervenir.
Mmh. Donc, vous interpellez alors les autorités, intervenir alors dans cette situation. Monsieur Yao, quel est aussi votre mot à l'endroit surtout des autorités?
Bon, sinon, nous voulons juste... interpeller les autorités pour nous aider à résoudre le problème.
Le problème. Alors, monsieur Arlo, finalement, qui concrètement vous interpellez? Parce que les autorités, c'est vague. Est-ce que c'est le ministre du transport? Qui vous interpellez pour intervenir alors dans cette situation?
Oui, dans toute situation comme ça, c'est toujours le père de la nation, le papa de la maison qu'on doit appeler. Donc, nous faisons appel au président, M. Faure, de vraiment nous aider.
Il a beaucoup de charges, hein?
Oui, on le sait, mais il est toujours le président et bon, toutes les charges sont sur sa tête.
D'accord. Et si vous avez un mot à l'endroit même d'ailleurs des responsables alors de M Auto, ou du moins de la moto électrique, pardon, que vous utilisez?
Merci beaucoup. Et c'est juste pour dire aux gens de M Auto que nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne voulons pas leur malheur. Nous voulons vraiment le bien. Si par exemple ils acceptaient côtoyer bien collaborer avec bien ce que qu'ils entendent ce que nous leur disons, ça va même leur donner vraiment d'aller plus loin que ce qu'ils sont en train de faire.
Alors ce que vous demandez, c'est juste une table de discussion. Voilà, il y a mon confrère Gosson qui veut, je ne sais pas si c'est une question ou bien veut intervenir.
Point Gosson. De question. J'étais dans la maison M-Auto le 8 novembre 2023 pour divers problèmes dont le contrat, les points de charge, les horaires, le kilométrage mensuel, la coupure en circulation des motos, les jours de repos et les anciennes motos au cas où un des conducteurs trouve que bon, il ne peut plus. Est-ce qu'on va leur retourner leur ancienne moto? C'est beaucoup de problèmes. Merci. Mais quand on m'a finalement reçu, figure-toi que un contrat qu'un journaliste réclame, vous pouvez le lui servir. Si vous n'avez pas des choses à vous reprocher. Merci. J'ai demandé le contrat vierge pour étude. On m'a dit net. C'est, je me rappelle bien, Djogui Debra, directeur de la communication, et une autre qui m'avait reçu.
On vous a refusé.
Avant qu'on nous reçoive, moi j'ai dû le faire comprendre que si vous refusez, et ce qui va sortir là, ne venez pas nous dire après qu'on n'est pas venu vers vous. C'est après ça qu'on m'a rappelé comme quoi ils étaient disponibles. Il y avait une conseillère juridique aussi, mais c'est juste pour dire que cette affaire-là, il faut que on y voit clair. Parce que moi, mon avis personnel, que quand tu vas là-bas, là, ça a climatisé, tous les employés, je me dis, mais comment est-ce qu'on va les payer? C'est sur les motos là. Donc, les gens, ils font des bénéfices. Mais qui permettent à ceux qui conduisent, qui leur permettent de payer les employés, de vivre dignement aussi?
Merci.
Mais il faut dire qu'il y a un problème là-bas.
D'accord, il y a un problème là-bas. C'est pour cela même d'ailleurs qu'ils sont là. Uriel?
Non, vous savez, c'est une opportunité que vous leur accordez pour pouvoir trouver des solutions. Mm. Mais moi, je voulais juste savoir ou peut-être leur proposer de s'orienter vers le ministre de tutelle de leur activité. Je ne sais pas si vous avez connaissance du ministre de tutelle de cette activité. C'est quel ministère?
Ça doit être le ministère du transport routier et du commerce.
Voilà. Donc, je pense que la procédure, les démarches des négociations et d'entente, vous pouvez aller directement vers ce ministère-là. Ça serait plus impactant que l'ancien appel au chef de l'État. Comme le disait Pascal, vraiment, c'est quelqu'un qui est très surchargé. Et pourquoi ne pas aller directement vers votre ministère de tutelle?
Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Uriel. Oui, Jacques?
Je crois que ce problème repose une fois encore la question sur la protection de nos compatriotes avec les sociétés qui s'installent dans notre pays.
Tout à fait.
Ça repose la question. Donc il faudrait aujourd'hui que les autorités prennent les taureaux par les cornes, parce que ce que nous constatons, les sociétés s'installent, c'est vrai, c'est pour promouvoir leurs produits et également permettre la main d'œuvre. Mais ce que nous constatons au finish, c'est que nos compatriotes deviennent des boucs émissaires.
Ils sont lésés.
Les laisser pour compte.
C'est bête de somme.
Vous voyez. Donc je crois que, une fois encore, nous demandons à nos autorités protéger nos compatriotes qui travaillent au sein de ces sociétés. Le monsieur qui est en train de nous parler, quand en l'écoutant, vous comprenez qu'il est un peu instruit. Il est instruit, c'est-à-dire qu'il a un bagage intellectuel. C'est parce qu'il n'a pas trouvé quelque chose à faire qui s'est finalement tourné vers ce boulot-là. Donc, il faudrait que nos autorités les protègent, qu'ils viennent jusqu'aux antennes pour pouvoir exposer leurs problèmes. Ça fait quand même mal. Ce ne sont pas des mendiants, au fait. Non, ils ne sont pas en train de mendier. C'est-à-dire que c'est un travail qu'ils sont en train de faire. Il faudrait qu'on protège effectivement ce travail. Comment le contrat a été signé? L'autorisation a été donnée par qui? Pour que les gens la s'installent dans notre capitale, dans notre pays, que les gens travaillent, et que finalement, comme notre confrère Godson le disait tout à l'heure, il est allé, lui, il a fait le déplacement, il a vu le confort dans lequel les gens sont là-bas. Mais pour qu'ils soient dans ce confort, c'est les gens qui sont en train de travailler. Même si vous n'allez pas effectivement satisfaire aux gens, appelez-les quand même, essayez de discuter avec eux. Ne soyez pas des ennemis. Je crois que ils ont interpellé. Udel parlait du ministère des transports. Je sais que le ministère également du commerce doit être impliqué également dans ça. Parce que ceux qui donnent les autorisations, s'il vous plaît, protégez nos compatriotes.
C'est
vous ne pouvez pas
important.
Faire ça, voir ça là dans un autre pays. Hein.
Non.
Mais si, non, ce n'est pas possible. Surtout qu'on voit ce genre de choses. Vraiment, nous interpellons nos autorités à protéger effectivement nos compatriotes qui travaillent effectivement dans ces sociétés-là.
Merci beaucoup Jacques pour cette interpellation, puisque nos amis conducteurs de motos électriques qui sont chez nous ici, ils demandent juste alors à rencontrer les responsables pour discuter avec eux pour que leur problème soit totalement résolu. Merci beaucoup Monsieur Arolo Kossi-Edem d'être passé alors dans cette émission. Monsieur Yao Essensina, merci d'être passé aussi dans cette émission.
C'est nous qui vous remercions.
Merci beaucoup. Alors, chers confrères, nous allons quitter cette question alors de moto ou bien de moto électrique pour discuter alors de nos sujets ici au Club de la Presse. Gosson, je ne sais pas si vous savez que aujourd'hui c'est notre jour d'anniversaire. Je veux bien parler alors de Canal FM. C'est notre jour d'anniversaire aujourd'hui. Nous avons 27 ans.
Ça, tu as tout fait pour me cacher la surprise. Autrement, je serais venu avec des roses. Pas pour les mâles, mais pour les femelles de Canal FM.
Ah, d'accord. Ouais.
Mais, alors, joyeux anniversaire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il n'est pas trop tard quand même. C'est le jour d'anniversaire. L'anniversaire continue. Et c'est sur toute l'année, bien sûr. Udel?
Oh, bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que la date, je ne l'avais pas en tête. Félicitations pour la chaîne de la nouvelle génération qui fait beaucoup pour les citoyens togolais, que Canal FM est plus de partenaires économiques afin d'améliorer les salaires des employés. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour nourrir les familles. Donc, il faudrait que nous souhaitons, tous nos souhaits, c'est que la radio puisse avoir assez de partenaires. Sans les partenaires, vous ne pouvez pas fonctionner. À partir des partenaires, le DG même verra que tiens, le travail abattu a ses conséquences positives. Donc je vais m'atteler à améliorer les salaires de mes collaborateurs. C'est tout ce que moi je souhaite pour vous.
D'accord. Jacques, 27 ans, c'est beaucoup quand même.
Oui, vous savez, 27 ans c'est beaucoup pour la vie d'une radio. C'est pas du tout facile. Je gère une radio, je sais ce que c'est.
Tout à fait.
Pour renchérir ce que Uriel disait tout à l'heure, nous savons que nous avons quand même des mécènes dans ce pays qui peuvent soutenir effectivement ces médias. Souvent au Togo, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de pouvoir sponsoriser que ce soit la radio, la presse écrite, les sites internet. Les gens ont souvent peur, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'en injectant l'argent, peut-être on peut leur demander s'ils ont trouvé de l'argent et après ça va leur créer des problèmes. Mais dans d'autres pays, vous voyez des gens qui sont là, qui soutiennent. Moi, je voudrais voir également un Togo demain où les gens sont là, ils soutiennent effectivement ces médias-là, le travail qu'ils sont en train de faire. Il a parlé du traitement du personnel, c'est vrai. Hein? Vous savez, aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité sociale est à nos trousses. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions disposer des moyens pour pouvoir effectivement aider, déclarer nos agents à cette Caisse nationale de sécurité sociale. Hormis la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a l'ARCEP qui est là, il y a également la CET. Si par malheur, par exemple, peut-être que vous êtes en location, vous êtes obligé une fois encore de payer également les frais de location. Vous voyez que c'est des charges vraiment énormes pour les médias au Togo. C'est vrai, quand vous prenez également la cagnotte de l'aide d'État à la presse, c'est souvent un peu difficile. La somme que les radios là reçoivent à la fin de la répartition, vous voyez également que c'est un problème.
Donc, c'est souvent insuffisant.
Voilà, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse avoir effectivement des sociétés qui signent des contrats. Hein, qui signent des contrats avec les médias, que ce soit la radio, la presse écrite, pour aider effectivement ces médias-là à mieux effectivement fonctionner. Donc, une fois encore, bonne fête à Canal FM, aux techniciens, aux journalistes, aux directeurs de Modeste, mais sans vous, ceux qui se battent pour que cette radio-là survive. L'important pour nous aujourd'hui, c'est que ceux qui ont les moyens, il faut vraiment accompagner. Vous savez, Pascal, c'est quand on est vivant qu'on jouit de ce qu'on a et de ce qu'on possède. Après la mort, vous ne pourrez plus jouir de quoi que ce soit. Après la mort, on peut mettre même 10 milliards dans votre cercueil, de partir avec. C'est les voleurs qui vont casser ce cercueil.
J'en ferai partie.
Donc, je crois que dès qu'on est vivant, soutenons-nous, aimons-nous les uns les autres.
Et justement, aimons-nous vivants surtout. C'est très important. Nous sommes rejoints par le fils de Couvé, Didier Assogba. Bonjour.
Oui, mais Pascal, si tu dis que vous avez été rejoint, ça veut dire que je venais d'arriver.
Non, quand je dis nous sommes rejoints,
je suis là, tu m'as mis en attente quand tu recevais nos amis de moto.
Oui, mais
et j'ai même été étonné de ce que quelqu'un avec un français très soutenu et très chatoyant faisait médian avec ce français. Ça veut dire que le pays a beaucoup de soucis. Après, je veux dire bonjour à toi, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour à mes aînés qui avaient eu la chance, eux, de rentrer quand même ici. Donc, j'avais laissé le droit d'aînés à Uriel qui a pris ma place à l'époque.
Entre-temps, j'étais cherché, tu as repoussé.
Maintenant, je veux dire bon anniversaire à Radio Canal FM.
Merci.
Vous savez, Canal FM fait partie des radios qui ont forgé en nous cette envie, cette ambition, voilà, de faire des médias. Et donc toutes ces années, on a suivi le travail que fait Canal FM. C'est quand même un travail. Canal FM fait partie des deux ou trois premières radios du Togo. Donc c'est quand même assez intéressant et soulageant à la fois de constater que Canal FM continue d'exister et de travailler pendant que la vague essaye de prendre les anciens médias du Togo. C'est bien dommage. Et les uns et les autres briefaient un peu sur les difficultés des médias du Togo. Moi, ce que je vais dire aussi, oui, c'est toujours aux annonceurs, aux citoyens de tous les jours, pas forcément les grandes sociétés, mais tout le monde est potentiellement annonceur, même ceux qui tout le monde est potentiellement annonceur et donc ils doivent s'intéresser et privilégier d'abord les médias du Togo par rapport à leurs activités, par rapport à leurs actions médiatiques et communicationnelles. Parce que tout le monde fait le procès aux journalistes du Togo maintenant de ne pas faire le travail ou d'avoir abdiqué ou de faire dans l'autocensure et toute autre chose. Mais c'est bien dommage de constater que quand nos compatriotes, y compris DG de société, y compris simples citoyens, ont des informations à passer. Vous allez écouter sur RFI, vous allez voir les annonces du Togo dans Jeune Afrique et dans d'autres médias à l'international. Après, c'est les mêmes qui reviendront faire le procès aux médias du Togo et insulter proprement les journalistes togolais, mais sans savoir que nous endurons beaucoup de difficultés pour pouvoir tenir, pour payer la facture d'électricité d'une radio. Tout le monde peut imaginer ce que ça donne pour payer le personnel d'une radio. tout le monde peut voir ce que ça donne. Donc, Canal FM essaie de tenir. Félicitations à la direction générale et voilà, appel aux autorités, aux citoyens de tout bord, de tout niveau, de ce que vous avez, même un simple communiqué, une simple annonce de API à passer, ça peut être 2000, ça peut être 5000, n'importe, venez vers les médias du Togo d'abord avant de penser mettre vos avis de décès et autre chose dans les médias à l'international.
D'accord, alors nous allons quitter ce sujet. Alors, d'anniversaire de Radio Canal FM, nous souhaitons juste joyeux anniversaire à nous-mêmes, hein, et également plein de vie à Radio Canal FM. Alors, Jacques, vous parlez entre temps lors de la mort, dans votre intervention justement, dans ce week-end la mort a encore frappé à notre porte et déjà des journaux, je veux bien parler alors du décès de Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant. Il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet. Ce serait étonnant que des journaux ne reviennent pas alors sur le sujet, vu l'immensité même d'ailleurs de la personne ou de la personnalité alors de Monseigneur Bariga. Il y a Méga Info qui est revenu sur le sujet, Méga Info qui titre « Décès de Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant, humble serviteur de Dieu, grand artisan de paix ». Il y a aussi le journal Nouvelle Opinion qui titre à sa une « Rappel à Dieu de Monseigneur Nicodème Bariga, l'Église catholique pleure un grand serviteur de Dieu ». Il y a aussi le journal Le Correcteur. Le Correcteur aussi est revenu sur le sujet. Le journal qui titre « La sainteté attristée par le rappel à Dieu de Monseigneur Nicodème Bariga ». Alors, Jacques, nous avons tous ensemble appris l'information hier, c'est-à-dire dimanche, dans l'après-midi, où c'est la conférence des évêques du Togo qui nous annonçait que le rappel à Dieu alors de Monseigneur Nicodème Bariga. Comment vous avez accueilli l'information?
Bon, vous savez, Pascal, pour ceux qui connaissent un peu Monseigneur Bariga, ceux qui l'ont connu et ceux qui l'ont côtoyé, disons, deux mois passé, vous saurez que c'est un monsieur qui dépérissait un peu, pour ceux qui l'ont vu. Certains se posaient des questions. Moi-même, je me suis posé une question avec un prêtre. Je lui ai posé la question, bon, qu'est-ce qui ne va pas avec notre archevêque? Donc, il avait expliqué qu'il avait effectivement les soucis de santé. Et hier, finalement, on a appris qu'il est... Il est décédé. Vous savez, il avait toujours cette phrase fétiche qu'il disait tout à l'heure, qu'il demandait à chaque Togolais de faire sa part. Je crois que Monseigneur Bariga a fait sa part. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui avait dit qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Désormais, c'est la couronne de vie qu'il attend au ciel. Je crois que l'important pour nous, qui sommes les vivants aujourd'hui, que nous sommes musulmans, que nous sommes chrétiens, évangéliques, catholiques, notre espérance sur cette terre, c'est qu'un jour, lorsque nous allons quitter, que nous puissions hériter le paradis. Monseigneur Bariga a fait sa part. Nous qui sommes dans ce monde des vivants, essayons de faire également notre part en faisant du bien. Je l'ai dit tout à l'heure, le plus important pour nous sur cette terre, Pascal, nous sommes des pèlerins. Que chacun essaie dans sa tête. C'est-à-dire que tu peux mourir dans l'avion, tu peux mourir dans le bateau, tu peux mourir dans la voiture, tu peux mourir même en marchant, tu peux mourir, tu es couché, tu ne peux plus te réveiller. Tu peux mourir même peut-être sur une table d'opération. C'est-à-dire que Dieu, lui, sait comment chacun d'entre nous, nous allons quitter un jour cette terre. Et vous savez, la mort, personne d'entre nous ici ne peut dire que lui peut échapper à la mort. C'est pourquoi le plus important pour nous, faisons du bien.
C'est
faisons
important.
Du bien, très important pour notre vie, sur notre parcours sur terre.
Voilà.
Paix à son âme. Et je présente mes condoléances les plus attristées à l'Église catholique, au clergé catholique, à tous les membres et à tous les Togolais. Parce que c'est un monsieur qu'on connaissait très bien. Il a travaillé à la CVJR, on a vu ce qu'il a fait. Donc, que ses œuvres l'accompagnent.
Que ses œuvres l'accompagnent. Pour ce qui concerne alors la phrase fétiche alors de Monseigneur Bariga, il y a un journal même qui a titré aussi sur le sujet, hein, ce matin, Monseigneur Bariga a fait sa part. Alors, Uriel, on dirait justement que Monseigneur Bariga a fait sa part. Et nous qui sommes vivants, c'est à nous de continuer également par faire notre part.
Pascal, c'est un des sujets qui préoccupe tous les Togolais depuis hier soir. Nous, par exemple, on avait déjà bouclé le journal avant que l'information officielle ne tombe. Mais nous avons dû refaire carrément le travail pour rendre hommage à ce grand homme, humble serviteur de Dieu, un artisan farouche pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Il est reconnu au Togo pour ça et partout dans le monde. Vous savez, celui que nous pleurons tous aujourd'hui, s'il faut le rappeler rapidement, déjà en 87, il a été ordonné prêtre à Tapamé. En 2008, il a été ordonné évêque là-bas. Et en 2019, il est archevêque métropolitain. Vous savez, c'est quelqu'un avec un cahier de charges très lourd, un bagage intellectuel qu'on ne peut même pas épuiser dans l'appréciation, puisqu'il a été même un diplomate au niveau du Saint-Siège, qu'il envoyait partout dans le monde, notamment au Rwanda, pour suivre le procès qui faisait suite au génocide là-bas. Il a un bagage intellectuel très énorme. Et vous savez bien aussi que Monseigneur Bariga, bénisse en paix à son âme, outre sa mission épiscopale, c'est quelqu'un reconnu aussi dans la musique. Il a à son actif plus de 100 chansons, auteur-compositeur. Il est aussi un dramaturge. Il a écrit des pièces de théâtre qui lui ont valu aussi des prix.
Comme Le Trône Royal.
Le Trône Royal, merci beaucoup. Donc, c'est quelqu'un intellectuellement immense, très immense. Et tous les honneurs que les gens sont en train de lui rendre, c'est de droit. Il le mérite. Donc, aujourd'hui, nous plairons quelqu'un, un grand Togolais qui est parti. Ce n'est même pas une question de un ministre de Jésus-Christ, de confession religieuse catholique, non. Le monsieur travaille, vous avez vu sa collaboration avec les musulmans. Quand les musulmans ont un événement, le monsieur est avec eux. C'est ce qui a fait naître cette familiarité entre les religions. Donc c'est quelqu'un, c'est un artisan, un grand artisan, comme nous l'avons écrit, de la paix. Il n'est pas quelqu'un qui dit ceci, il n'est pas... Non, franchement, que ses œuvres inspirent nous les vivants, de quelle religion que nous soyons, que ces œuvres puissent nous inspirer afin que demain on puisse dire, ah voilà, un tel homme est parti, il a semé avant de partir, voilà les Togolais qui sont en train d'emprunter ses pas. Je profite de cette occasion puisqu'il a fait le droit canonique pour saluer tous les prêtres qui ont fait le droit canonique, notamment l'actuel chancelier de l'évêché de Sokodé, je nomme révérend père Ernest Koula qui nous a formé à Notre-Dame de la Paix à Sotoubois. Merci à lui aussi et à son économe Talakaina Dieudonné, de tous ces prêtres là qui œuvrent pour le bien-être de tous les citoyens, qui ont le souci du mieux-être des citoyens. Que Dieu les bénisse.
D'accord, que Dieu les bénisse. Didier, nous connaissons en quelque sorte le parcours de Monseigneur Nicodème Bariga. Après tout, nous dirons quand même que c'est un grand homme qui est parti.
Une énorme perte pour le Togo. Et je dirais, je me pose la question depuis hier à savoir, est-ce que nous avons, quand je dis nous, c'est pas moi personnellement, je parle de l'État en tant que Togo République, est-ce que nous avons su tirer le meilleur de ce grand homme, et nous avons su jouer sur les atouts que représentait cet homme pour nous avant maintenant son départ de la terre. Je dirais non. Je me rappelle encore quand il conduisait les travaux de la CVJR, notamment les auditions dans le bâtiment qu'occupe actuellement la CENI. Je me rappelle avoir posé une question quand il y avait quelques difficultés, notamment avec les contradictions, la sortie de l'armée à l'époque, vous vous souvenez, c'était un peu tonitruante avec d'autres communiqués qui sortaient par ici et là. Et je me rappelle lui avoir posé la question de savoir est-ce qu'il pense que les politiques togolais de tout bord facilitaient notamment le travail de réconciliation qu'il était en train de conduire. C'est dans la suite de la réponse qu'il donnait qu'il avait dit que chacun fasse sa part. Vous savez, c'est Monseigneur Bariga, c'est un personnage fascinant. Donc vous prenez de tous les côtés, vous avez quand même les qualités qu'il représentait et un homme de consensus. Et il avait su travailler dans ce sens. Et je pense même qu'on aurait peut-être mis quelqu'un d'autre à la tête de la commission à l'époque. Peut-être qu'on n'aurait pas abouti, du moins, au résultat apaisant qu'on a eu. Même si, après, des gens disent qu'on a beaucoup de difficultés à mettre en œuvre les conclusions de la commission, de la CVGA, naturellement. Donc, c'est un monsieur énorme que nous avons perdu. Et c'est un monsieur trans-religion. C'est un monsieur trans-religion. C'est un monsieur qu'on ne peut pas caser dans le catholicisme. C'est un monsieur qu'on ne peut caser nulle part. Il a travaillé, il a démontré sa capacité à aider le Togo à aller très loin. Ses dernières sorties interpellant les Togolais, les politiques, le gouvernement.
Et même les religieux.
Dans la gestion du pays et dans ce que tout le monde peut faire, ou chacun pourrait faire, pour améliorer le vécu quotidien, le vivre ensemble et le développement de notre pays. Est-ce que c'était pas des signes ou des signaux qui montraient justement que c'est un monsieur, un sage qui interpellait la conscience nationale avant de pouvoir partir? Moi, je perçois encore, retournons réécouter les dernières sorties de Monseigneur Barriga. Ce sera un peu comme un testament où ces derniers mots qu'il laissait à tout le peuple togolais. Et aujourd'hui, on se rend compte que le monsieur, sans que véritablement rien ne le présage, est mort. Moi-même, hier, j'ai eu le communiqué de la conférence, mais j'ai prié énormément. C'est que je me demandais pourquoi est-ce que Monseigneur aurait pu mourir à cette époque. Alors que la mort, c'est réservé pour tout le monde. Il a fait sa part, comme les uns les autres l'ont dit. Si ça avait été nous qui jugerons dans l'au-delà, on aurait pu dire qu'il est déjà éligible. Mais plaise au Seigneur de pouvoir considérer toutes les œuvres de Monseigneur Barriga au Togo et hors du Togo et de pouvoir l'accueillir convenablement dans son royaume. Il est d'ailleurs son ministre, son archevêque. Il a fait énormément et paix à son âme et que le Seigneur l'accueille.
Gosson, c'est vrai que Didier posait la question tout de suite, mais j'aimerais te poser aussi cette question concernant le fait que est-ce que nous avons su aussi tirer le meilleur de ce grand homme qui est parti?
Bon, encore faudrait-il qu'on sache si nous avons pu cerner la personnalité de ce grand homme.
Tout à fait.
Parce que ce que moi je retiens de l'homme, c'est le côté diplomate. Il est assez fin diplomate. Mais excusez-moi, je vais au-delà de ce décès pour dire que c'est ça ce que nous avons en commun. Deux dénominateurs. La venue et le départ.
C'est-à-dire la naissance et la mort.
Voilà. Et heureusement que avec lui, on réalise que pour parler de grand homme, ça ne s'évalue pas par rapport aux richesses matérielles. Heureusement. Et si ce départ pourrait nous servir à chacun de nous pour que nos actions soient plus dirigées vers notre après, quand je ne serai plus, qu'est-ce que Uriel dira de Godson? Un vantard, ou alors il avait tel nombre de maisons, moi tout JPTE que je suis. Donc c'est ce que je retiens. Malheureusement, rien que cette année, il y a beaucoup de grandes personnes qui s'en vont. Mais une fois encore, c'est un dénominateur commun. Malheureusement, qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on vient et quand est-ce qu'on va repartir. Raison de plus pour que, après nous, quand on dira que nos œuvres, que ces œuvres l'accompagnent, que chacun effectivement réalise que l'homme a fait des œuvres qui vont l'accompagner.
D'accord. Voilà. Alors Jacques, je vous repose cette question concernant ce que nous avons pu tirer de meilleur de Monseigneur Barriga. Je vais bien parler alors des politiques. les politiques. Est-ce que vous avez l'impression que les politiques ont su tirer vraiment le meilleur de ce grand homme? Parce qu'on se souvient également, vous l'avez si bien dit maintenant, il a dirigé les travaux de la CVJR. Après tout, il a remis même d'ailleurs le livre blanc, au président de la République. Et il faudrait quand même qu'on applique alors tout ce qui est dans ce livre blanc. Finalement, est-ce que nous avons pu tirer vraiment l'essentiel ou le meilleur de lui?
Vous savez, Pascal, ça dépend de là où vous positionnez sur les œuvres de Mgr Barriga. Certains vous diront que non, il n'a rien fait. Certains vous diront qu'il a très bien fait. Vous voyez? Donc c'est pourquoi moi je résume en sa vie, par rapport à ce qu'il avait dit, que chacun fasse sa part. C'est-à-dire qu'il a fait sa part, il a démontré sa bonne foi, il a montré le chemin, il a montré également peut-être les directives par rapport à la situation politique au Togo, parlant de la classe politique, parlant du pouvoir en place. Il a dirigé par exemple la CVJR, il a rencontré les victimes et tout. Nous savons ce qui s'est passé. Lui, un bon homme de Dieu et clergé qu'il soit, il a dit ce qu'il fallait faire. Bon, si les gens ne veulent pas mettre ça en application, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne peuvent rien faire. Vous savez, la politique, c'est un marigot où il y a trop d'hypocrisie. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. La politique, c'est un marigot où l'hypocrisie domine effectivement les faits réels, c'est-à-dire concrets que nous vivons en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire, quand vous êtes politicien, je ne voulais pas employer ce mot qui dit, certains disent que la politique, c'est des menteurs. Mais il faudrait reconnaître qu'il y a trop d'hypocrisie en politique. C'est-à-dire, quand vous voyez un politicien le matin, il vous présente une forme. La nuit, vous le revoyez encore, il vous présente encore une autre forme. C'est-à-dire que la politique, c'est les intérêts. Si tu n'es pas sur le chemin de mon intérêt, écoute, je te prends comme peut-être un ennemi. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, quand vous lisez les vers de ceux qui ont la chance d'aller à la CVJR pour lire les vers que cette CVJR a eu à compter, laisser, vous allez constater beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous voyez, c'est comme si nous sommes dans un Togo où on peut dire qu'il y a les grands et les petits. Et quand je parle de grands, vous n'êtes pas des enfants, vous pourrez comprendre ce que je voulais dire.
Tout à fait.
Mais il faut reconnaître que le plus important, pour m'arrêter, c'est que Monseigneur a dit des choses, que ce soit la classe politique de l'opposition, au parti au pouvoir, il a même célébré des cultes et des messes où il y avait ensemble et la clape de l'opposition et les partis et le parti au pouvoir. Qu'est-ce que les gens ont retenu de sa vie sur cette terre? Les conseils qu'il a eu à prodiguer aux uns aux autres, les gens en ont fait? Il est parti, il faudrait que chacun réfléchisse. C'est pourquoi moi j'ai dit, comment nous allons partir? C'est le plus important. Comment nous allons mourir? Comment nous allons quitter la terre des vivants? C'est le plus important pour nous. Vous savez, laisser les œuvres, ce que les gens font, mais comment nous allons partir? C'est ça l'essentiel.
C'est ça l'essentiel. Merci Jacques. Oui, Muriel?
Non, moi, même si la question ne m'est pas posée, je vais tenter de répondre.
Tout à fait.
Vous demander à savoir si les Togolais, dans leur ensemble, ont su tirer le meilleur des œuvres ou bien de l'attitude ou de l'homme lui-même. Bon, moi, je dirais oui. Je dirais oui, sur beaucoup de dimensions. Je pense que le Togo a su tirer bénéfice de la compétence, du savoir-faire et de l'intelligence de ce monsieur. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, les travaux issus de la CVJR, l'une des applications, l'une de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, je pense que c'est ce que le H-Kouroun est en train de faire et c'est pas un rien. Et aussi, individuellement, chaque Togolais tire bénéfice de quelque chose qu'il ne veut pas dire. Moi, je tire beaucoup de toi. Lorsqu'on est ici ensemble, je tire beaucoup de Didier, de Godson et du président. Mais tout de suite, mon orgueil ne me permet pas de dire que quand je suis avec vous, je bénéficie de ceci, je bénéficie de cela. Je pense qu'il serait quand même hypocrite ou malséant ou même malhonnête de la part de quelqu'un à qui on pose cette question. Est-ce que tu as pu tirer personnellement toi? Tu as tiré quelque chose de ce monsieur, il serait quand même malhonnête de la part de cette personne de dire non. Mais attention, je vais chuter. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on déclare des gens sains après leur mort et qu'on ne rencontre pas cela pour les Africains qui décèdent. Je pense qu'à partir de ces instants-là, les autorités religieuses, il y a beaucoup, ça part du droit canonique, beaucoup, beaucoup de prêtres, d'évêques, d'archevêques ont fait ce droit-là. Je pense que c'est le moment pour que ces spécialistes de droit canonique commencent par étudier les dossiers des uns et des autres. Qu'est-ce que les autres ont fait pour devenir des saints et que ici, de l'autre côté, on n'arrive pas à les déclarer saints? C'est dommage. Il va falloir qu'après la mort des gens que nous apprécions positivement comme ça, que ces spécialistes de droit canonique commencent par étudier leurs dossiers pour voir dans quelle mesure on peut déclarer tel ou tel.
Et qu'ils soient aussi nos saints. Oui, Didier.
Je pense que Uriel, ce qu'il veut dire, c'est clair. Si j'avais été des autorités, j'avais été des rangs des autorités de l'Église catholique du Togo ou même du monde entier, je dirais, demain, qu'on mette sur le calendrier quelque part Saint Bariga. Parce que le monsieur est immense. Le monsieur est vraiment immense. Et moi, vous savez, quand on l'intronisait ici comme archevêque métropolitain de Lomé, vous avez vu la configuration de la salle. C'est l'unanimité autour de la personne. Je pense que l'avis de Monseigneur, ma foi, moi personnellement, depuis hier, je pense que c'est un goût d'inachevé parce que je me dis encore qu'on aurait pu. On aurait pu peut-être avoir d'autres tournures, on aurait pu avoir d'autres, une autre allure du Togo ou autre chose, si on lui avait confié un certain nombre de responsabilités pour qu'il puisse continuer à temporiser les ardeurs des uns et des autres, surtout que ses actions et ses prises de parole, son comportement est apprécié unanimement de part et d'autre, et même sur nos clivages. Vous savez, le dialogue Togo de Télécom, je ne sais pas, un ou deux, où il disait qu'il a l'impression que les politiques togolais ne savent pas ce qu'on appelle dialogue. Jusqu'à ce jour, cette maxime demeure vérifiée. Les gens n'ont pas la substance de ce qu'on appelle dialogue, et il avait aidé les gens à pouvoir dialoguer, et jusqu'à ce jour, les gens ont refusé de dialoguer. Et ce qui fait qu'on a encore les réalités qu'on a dans le pays, et alors qu'on avait un atout important comme Monseigneur Bariga, qui pourrait nous aider à surmonter un certain nombre de difficultés, y compris de notre histoire, y compris de notre période contemporaine. Mais bon, les gens comme les grands hommes de cet acabit, il faut attendre encore des années, sinon des générations pour les avoir. Mais plaise à Dieu de nous donner encore d'autres, ou de susciter encore dans le pays, d'autres Monseigneur Bariga, dans plusieurs secteurs qui auraient pu permettons au Togo de reprendre l'allure de développement, l'allure de la cohésion, l'allure de la réconciliation, parce que nous en avons besoin et le pays en a besoin.
Le pays en a besoin. Au regard de l'immensité de la personne, si nous voudrons vraiment faire cette émission, je pense même d'ailleurs que le temps qui nous est accordé ne suffira pas pour parler de Monseigneur Bariga, mais nous allons en arrêter là, par rapport surtout au sujet parler politique. Et nous parlons politique et on parle alors de cette reconduction de Madame Vitoua Tomega Doumbé comme Premier ministre alors du Togo. C'était le vendredi dernier, bien sûr, que l'information est tombée et des journaux sont revenus sur le sujet. Il y a une nouvelle opinion qui est revenue sur le sujet et dit nomination de Vitoua Doumbé dans l'attente d'un nouvel exécutif. Liberté, Gosson, vous êtes revenu aussi sur le sujet et vous écrivez Fonia Singbe remet en selle Vitoua Doumbé et confirme la déchéance d'un régime aux abois. Alors, un autre journal qui titre sur le sujet Vitoua Tomega Doumbé, jamais 203. C'est le journal Harakiri, bien sûr. Le journal Temps Nouveau aussi titre sur le sujet gouvernement de transition, le premier ministre démissionne. Réactivé. Un autre journal, c'est l'Éveil de la Nation. L'Éveil de la Nation qui titre Primature et 2-2 pour Vitoua Doumbé. Et je pense quand même que les journaux qui sont avec moi aujourd'hui, ce sont ces journaux dont je viens de livrer quand même la une concernant surtout alors ce sujet. Alors, Gosson, Comment vous avez, c'est vrai, nous avons attendu hein, pour avoir un nouveau gouvernement ou pour avoir un autre premier ministre, mais toujours est-il que le vendredi dernier, nous avons appris qu'il y a eu une reconduction plutôt alors de Madame Dobé.
Heureusement que tu parles de reconduction. Pour, je suis désolé pour ceux-là qui veulent parler de nomination. C'est comme si on ramenait feu. Non. L'ancien ministre, le premier ministre, comme la Mali par exemple, il a déjà été aux affaires. On parlait de, non pas de recondition, mais qu'il est revenu aux affaires. Mais quelqu'un qui a terminé un mandat et on le confirme. Ce n'est pas parce qu'on a passé 2 mois sans gouvernement que sa confirmation devrait s'appeler nomination.
Oui, Gosson, vous avez bien fait quand même de souligner cela, parce qu'il y a des gens qui ont parlé de nomination et d'autres ont parlé de reconduction. Ceux qui parlent alors de nomination, c'est parce que on est... Ils disent que non, c'est parce qu'on est dans la 5e République où c'est une nomination.
Le français précis et concis, Pascal. On peut chercher à ripolliner ou alors à... Je sais pas, à caresser le fait, mais en français facile, c'est une reconduction. Est-ce que entre son mandat et la nomination dont parlent les gens aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu en tant que quelqu'un d'autre? Non, le mandat est fini, on l'a reconduit. Du moins, on l'a reconduite. Donc, je suis désolé. Pour ce qui est du contenu, nous sommes allés bien au-delà de cette reconduction. Et pour ceux-là qui veulent comprendre la raison de ce titre, appel leur est lancé pour qu'ils courent vers liberté avant que ça ne finisse dans les kiosques.
C'est important. Alors, Uriel, c'est vrai, intéressons-nous même d'ailleurs à ce mandat ou à ce parcours alors de Premier ministre de Madame Dobé. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan que nous pouvons garder?
Le bilan de qui?
De Madame Dobé.
De Madame, son bilan pour son premier mandat.
Oui, oui.
D'abord, m'exprimer sur les concepts de nomination, de reconduction. Ça veut dire que Godson va adresser un courrier à la présidence pour qu'il corrige cela, parce que tous ceux qui ont utilisé le concept de nomination n'ont fait qu'exploiter le communiqué
de
la présidence. Et ça, c'est une nomination qui a été écrite. Bon. Vous êtes des anciens politiciens, je ne maîtrise pas là-bas. Par rapport au bilan, vous savez, nous avons les mêmes informations, vous et moi, sur ce qui concerne le parcours, le mandat assumé de Madame Dobé. Je pense par exemple que moi personnellement, c'est la première fois que j'ai vu un Premier ministre qui a été plus sur le terrain qu'au bureau. Ça, si je me trompe, quelqu'un pourra me démontrer. De tous les premiers ministres que j'ai connus, hein, depuis que bon, j'ai la connaissance, l'intelligence pour pouvoir apprécier les premiers ministres, je pense que c'est la première fois que j'ai connu un premier ministre qui a plus travaillé sur le terrain que dans son bureau. Bon, j'ai retenu ça, c'est pas quand même un rien. Mais au-delà des autres choses, au cours de son mandat aussi quand même, il y a eu un travail de pression. Il y a eu un travail de pression, même si beaucoup de choses ne sont pas exposées comme cela se devrait pour que les journalistes les exploitent. Je pense quand même qu'il y a certains ministres même, s'il y avait possibilité de démissionner ou de dire non, j'en ai assez, je ne peux plus continuer, il le ferait. Ça, c'est quand même quelque chose de positif. Maintenant, ce que j'ai regretté au cours de son mandat, c'est le fait que beaucoup de ministres soient invités. C'est invité ou c'est convoqué à l'Assemblée nationale. Godson, c'est invité ou c'est convoqué à l'Assemblée nationale. Qui ne s'y sont pas rendus. Ils n'ont pas répondu pour aller à discuter du sujet sur lequel ils ont été convoqués. Moi, personnellement, j'ai été déçu parce que c'est le rôle aussi de l'Assemblée nationale. Le contrôle de l'action du gouvernement. Je pense que c'est ce que ces gens-là tentaient de faire. Mais pourquoi on peut inviter un ministre pour répondre de certaines questions, que ce ministre soit sur-ministre pour ne pas aller? Là, je me dis qu'il y a un souci. Sinon, pour le reste, quand même, d'une façon générale, je pense qu'elle a joué son rôle et qu'elle mérite ce qu'on lui donne actuellement comme appréciation.
Ah, d'accord. Alors Jacques, il a dit, ou la mission qui est conférée en quelque sorte à Madame Doubé pour ce deuxième parcours alors de mandat alors de Premier ministre, c'est que c'est elle qui doit en quelque sorte conduire la transition. Est-ce que finalement c'est la personne idéale pour cette transition?
Bon, Pascal, vous savez, quand vous prenez le nombre de mois qui nous restent pour cette transition, je crois que c'est 9 mois.
Tout à fait.
Est-ce que ça atteint même 9 mois encore? Je ne crois même pas.
Moins de 9 mois.
Je crois que le mandat du président actuel finit le 3 mai, je crois. Donc, ça ne fait plus 9 mois. Je crois que, bon, si c'est pour conduire la transition, pour mettre en place les institutions, vous savez que pendant ces 9 mois, parler du développement, parler des projets, encore, ça serait un peu compliqué parce que tout sera maintenant focalisé sur l'installation des institutions.
Tout à fait.
C'est-à-dire le Sénat, le président de la République, le président du Conseil et tout ça. Donc, je crois que le gouvernement qui sera maintenant mis sur pied sera maintenant attelé à mettre en place les institutions de la 5e République. Donc, je crois que pour ceux qui parlent de nomination, ceux qui parlent de réchauffement, ceux qui parlent de reconduction de Mme Doubé au poste de Premier ministre, je crois que la tâche qui attend effectivement Mme Doubé, c'est de mettre en place effectivement ces institutions. Donc c'est à partir peut-être de l'année prochaine qu'on parlera maintenant, après la mise en place de ces institutions, dont je venais de citer, et la mise en place également du gouvernement, qu'on peut parler maintenant du développement. Donc je crois que pour le moment, c'est vrai que pendant la période de gestion de Mme Doubé, vous vous rappelez, il y avait la crise de la COVID qui est entrée pendant son mandat, et ça a créé également des problèmes au niveau effectivement...
Elle est venue retrouver la COVID.
Au niveau de l'économie. Après, c'est elle qui gère également le dossier de la mise sur place des institutions de la 5e République. Donc, c'est pour vous dire qu'elle a un à l'aval, elle a un également à l'amont. C'est ça, c'est-à-dire que l'aval, c'est le COVID qu'elle a géré. Et il reste maintenant à ce qu'elle puisse parachever la mise en place des institutions de la 5e République.
D'accord. Je repose peut-être cette question. Est-ce que c'est le profil idéal pour conduire cette transition?
Bon, je ne suis pas le chef de l'État. C'est le chef de l'État a jugé bon de choisir qui il a voulu pour conduire la transition. C'est vrai que parce que Mme Doubé est déjà ou était déjà Premier ministre, et donc sa nomination prêtait à confusion. Donc la plupart ont confondu cela ou ont pensé que c'est une reconduction, parce que sous d'autres cieux, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles hutres, comme on dirait chez nous là-bas. Et donc, puisque on a mis du vin nouveau dans de vieilles hutres, les gens ont considéré que bon, c'est la même chose qui continue. Et donc, surtout qu'on parle de transition et tout ça, d'aucuns avaient pensé qu'on aurait pu nommer une autre personnalité pour véritablement, avec cette mission-là, justement, de transition, de mise en place des institutions et tout, pour préfigurer de ce qui pourrait arriver après mai 2025. Mais bon, comme je dis, le chef de l'État a choisi comme Mme Doubé elle-même l'a dit, de lui refaire confiance. Donc je crois que elle-même parle de refaire confiance. Donc ça veut dire qu'elle-même comprend sa nomination comme reconduction, puisqu'elle est déjà au poste. Donc voilà. Comme Godson disait, ça va être très très compliqué de faire comprendre aux Togolais que c'est une nomination plutôt qu'une reconduction. Ça va être très compliqué. Même quel que soit ce qu'on va dire, disposition transitoire ou nouvelle constitution, vu que c'est la même personne, il n'y a pas eu d'interruption, ça va être très très compliqué de faire ce travail-là. Et donc, quand quelqu'un démissionne et qui continue le poste, on dit qu'il est... qui les reconduit. Et donc, ça va être très compliqué, mais bon, on a dit de dire que c'est une nomination, on comprend, on va prendre cela et on avance. Et on ne va pas faire de la guerre autour des terminologies. Acceptons que c'est une nomination et avançons. Et comme j'ai dit, le chef de l'État a décidé de miser ou de remiser, je vais reprendre les termes de Mme Dogbé elle-même, de remiser sur le profil de Mme Victoire Tomega Dogbé et de continuer les actions en cours. Donc, vivement qu'au soir du 5 mai 2000, parce que là, c'est la date butoir, au soir du 5 mai 2025, on puisse avoir, comme ça nous a été promis, toutes les institutions prévues dans la 5e République pour animer la vie du Togo et pour arriver à animer un Togo nouveau ou un Togo où, voilà, on nous a dit plus de démocratie, plus de développement, plus, qu'on puisse avoir tout ça là à partir de mai 2025.
D'accord, merci beaucoup. Oui, Gosson, est-ce que déjà, ça se comprend quand on prend pratiquement 2 mois pour reconduire la même personne?
Mais, vous me... Non, je ne vais pas aller sur ce terrain. Mais je veux juste dire que c'est d'abord surprenant. Carrément, c'est incompréhensible. Si c'est la même personne qu'on doit reconduire, je ne sais pas à quoi auront servi ces 2 mois-là.
Non, on a
qui
dit
plus est,
nomination.
Quand on, je veux m'attarder un peu sur certains aspects du bilan du Premier ministre, rien que en matière de déclaration des biens, ni le Premier ministre, ni le président de l'Assemblée nationale, encore moins le président, le chef de l'État, aucun de ces 3 personnalités n'a fait de déclaration de patrimoine jusqu'à la fin du mandat. Et c'est la même personne qu'on reconduit. Moi, ça me met très mal à l'aise. C'est comme si c'est seulement les menus fritains qui doivent rendre des comptes, qui doivent déclarer leurs biens. Mais les gros poissons, on s'en bat la couille. Pire, dans la nouvelle constitution, cette affaire de déclaration des biens de haute cour de la justice et autres là, vanished. Disparu.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe plus. Je dis bien, ça n'existe plus. Si vous voulez savoir, allez lire le journal.
D'accord, ok. Nous avons déjà passé un bout de temps ensemble avec, les questions, les débats ici au Club de la Presse. Mais je sais que nos amis auditeurs, auditrices s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Mais bien avant de justement de leur donner la parole, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi. Vous comprenez que maintenant nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 ou 91 36 63 75. C'est à travers ces 2 numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Décidément, il est parti. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces 2 numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce lundi. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces 2 numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce lundi. C'est à travers, bien sûr, ces 2 numéros que vous pouvez participer au débat. Au débat lors de ce lundi. Voilà. Allô? Oui, bonjour.
Oui, c'est Monsieur Takassi.
Oui, Monsieur Takassi, s'il vous plaît, diminuez le volume de votre poste à côté de vous.
Ah ah. Bonjour, bonjour à vous.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va, bon, c'est juste pour intervenir par rapport à vos cas de canonisation des évêques. Là.
Oui, oui.
Oui, pour dire qu'au Togo, l'ancien évêque de Sokoté, Monseigneur Bakwissi, oui. Matao, chrétien, décédé entre 91-92, a été canonisé et déclaré saint.
Oui, allez-y.
C'est juste pour éclairer les auditeurs.
D'accord, ok, merci beaucoup. Vous nous appelez de quel quartier?
Agouet-Télé-Sou,
d'accord, merci beaucoup. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, les 2 numéros sur lesquels vous pouvez réagir. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, allô, il y a... 90, oui, allô, bonjour.
C'est pour participer à l'émission.
Oui, votre nom c'est... Allô, votre nom?
Allô?
Oui, votre nom?
Allô?
Allô, je vous écoute. Il semble qu'il n'a pas de retour. Oui, allez-y, allez-y. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sûr, c'est deux numéros que vous pouvez réagir. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Pelé?
Oui, c'est Pelé.
D'accord, allez-y.
Bon, je salue le plateau. Je passe pour la première ministre. Elle a été reconduite. Et puis, vous parlez de la durée. Pourquoi 2 mois? Elle avait compris aux élections du 22 février 2020. Il va falloir 8 mois avant qu'elle avait installé. Ainsi, 2 mois encore pour l'installer. On se pose tout à la question, qu'est-ce qui arrive au président Fort, qui a fait de faire 20 ans au pouvoir avec une même équipe, n'arrive pas à mener rapidement, former un gouvernement direct dans son gouvernement. Maintenant, la question que moi je me pose, là, on parle de, elle est là pour la transition. Dans une transition, je ne sais pas si toutes les institutions ne doivent pas être envahies. Est-ce que toutes les institutions doivent être envahies? Est-ce que la transition va fonctionner avec la 4ème République dans leur projet d'action, c'est-à-dire on va les attendre à prendre des décisions encore de visite, ou bien provisoirement, elles sont là pour les appels courants. C'est ça qu'on devrait savoir. Est-ce que toutes ces décisions-là sont là pour les affaires courantes, ou bien elles sont là pour les affaires définies? Merci.
D'accord, merci beaucoup Pélé pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous allons vous prier d'avoir un poste récepteur à côté avant de nous appeler pour avoir le retour. C'est très important. 90 86 35 35.
Allô?
Allô, bonjour.
Ça peut participer à l'émission.
Oui, votre nom c'est.
C'est pour demander, est-ce que dans la constitution là, c'est écrit que. Et comment dirais-je, pour former le gouvernement, on laisse les autres institutions et on commence par celui de premier ministre. Parce que dans la constitution, ça ne figure pas la place du premier ministre. Maintenant, ils viennent de. Eux-mêmes, ils disent qu'ils travaillent sur la 5ème constitution, ou bien la 5ème république. Dans la 5ème république, maintenant, ils ressortent la place du premier ministre qui ne figure pas dans la nouvelle constitution.
Oui,
c'est ça que je ne comprends pas.
D'accord, ok. Merci beaucoup. 90, 86, 35, 35. Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour. Allô, bonjour. Décidément, il n'a pas de retour aussi, Michel. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Nous allons vous prier d'avoir un poste récepteur à côté. Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre nom, s'il vous plaît?
Mon ami, quoi.
Mon ami?
Oui, mon nom, c'est mon ami.
Ah, vous nous appelez de quel quartier?
Afidenigba, Pédocoin. Bon, Afidenigba, Péage.
D'accord, allez-y.
Allô?
Oui, allez-y.
Oui, bon, c'est pour une doléance ou quoi. Nous, ce n'est pas une doléance, en fait. Tu vois que, à notre niveau, par exemple, tu vas voir que le premier ministre a travaillé, c'est bon. Bon, moi, je n'apprive pas, le gouvernement. Mais je vois qu'une partie seulement qui est électrifiée et une partie n'est pas électrifiée. Dans notre milieu, tu vas voir que c'est le pays seulement qui est électrifié. Bon, je ne sais pas si le gouvernement, le ministre de l'énergie, et pense aussi à nous, ou bien, je ne sais pas. Et puis, on voit, nous, on est à côté du péage, il y a le courant là-bas, et maintenant, les environs, ceux qui sont là-bas, n'ont pas le courant. On a fait que, bon, le projet est arrivé, on a amené même les poteaux, on a fait les extensions, mais jusqu'à présent, on n'attend rien, ça fait déjà 2 ans, on attend dans la société. On se demande si le milieu là aussi est dans le Togo, ou bien dans l'Omé. Si vous dépassez les gaz, c'est tout un peu, vous allez voir le péage. Et le péage est éclairé, il y a l'électrification, mais il n'y a pas le courant dans le milieu. Nous avons besoin de l'électricité, nos enfants ont besoin d'apprendre, nos enfants aussi ont besoin d'aller à l'école, mais nous souffrons amèrement là-bas. Mais je ne sais pas si le gouvernement, le ministre de l'Énergie, nous attend. S'il pouvait faire du mieux, mais pour que il nous attend.
Je pense que ils sont à l'écoute. Merci beaucoup pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Abdel.
Abdel.
Je voudrais dire que Monseigneur Bariga était un homme exceptionnel. C'était l'incarnation de l'humilité et de l'amour. Que le Seigneur puisse l'accueillir dans sa demeure. C'est tout le Togo entier qui pleure ce grand homme, c'est un grand homme. Alors maintenant, concernant la nomination de Dame Dogbé,
oui.
La reconduction de Dame Dogbé, c'est normal. La nouvelle constitution a prévu une période transitoire. Et au cours de cette période, c'est faire en sorte d'aller petit à petit vers l'application, ou bien vers l'application réelle de la nouvelle constitution. Et cette période transitoire, c'est normal qu'on reconduise ou bien nomme un nouveau premier ministre pour ces derniers mois, afin de pouvoir, puisque la période transitoire, c'est depuis sa promulgation jusqu'au 5 mai 2025, ça fait un an. Donc on ne peut pas rester sans premier ministre. Et c'est normal pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, je pense que la constitution est bien respectée. Pour ceux qui ne le savent pas, allez-y lire un peu la nouvelle constitution, vous allez comprendre. Merci beaucoup.
D'accord, merci à vous aussi, Abdel, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce lundi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse de ce lundi. Allô, allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Allô.
Décidément, il n'a pas de retour, ou bien il n'a pas de retour plutôt. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô, comment vous allez?
Allô.
Décidément,
allô.
Michel, je pense quand même que nous avons un petit souci au niveau de la technique. Nous allons vous présenter quand même toutes nos excuses hein, et ce serait réglé. Nous allons revenir en plateau hein, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de lundi. Alors, Gosson, vous avez écouté les uns et les autres aussi se prononcer sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse et c'est le principe de l'émission. Quelle est votre réaction par rapport à ce que les uns et les autres ont dit?
Je veux juste retenir l'auditeur qui a appelé comme quoi il habite dans les environs d'un péage, lequel péage est éclairé, mais pas les alentours. Bon.
C'est quel péage?
Je pense que c'est Noëpé, non?
Voilà,
de, oui.
C'est ça.
Les Bassitos.
Tout à fait.
Là, il veut parler de Akepedo. C'est le péage d'Akepedo.
Ah, oui, voilà.
Bon, ok. Comme tu connais, tu gères l'affaire.
Qui est sur le contournement?
Oui,
qui est sur le contournement?
Voilà.
On a là à Noëpé.
C'est ça. Donc, c'est une manière pour ce citoyen d'interpeller. Parce que c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens ou bien n'ont pas le désir. Seulement, ce sont les réalités. On ne fera pas tout en même temps, mais c'est l'occasion pour que les autorités sachent que quand bien elles essaient de faire ce qu'elles peuvent, les populations n'en ont jamais assez. Et donc, elles doivent veiller, passer des nuits de veille pour satisfaire chaque citoyen, puisque le premier magistrat dit « Aucun citoyen ne sera laissé de côté ». Il y en a beaucoup qui se sentent laissés de côté. Il faut qu'on remédie à ça.
D'accord. Didier?
Oui, toujours pour l'interpellation des autorités. Ça fait comprendre que les citoyens, les attentes des citoyens sont encore très grandes et toujours très grandes. Et qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le pays. Il suffit de circuler à Lomé, d'aller dans la périphérie, vous comprendrez. Que les Togolais attendent toujours l'État
que l'État manifeste sa présence, peut-être à travers les routes, hein, très cher à notre ami d'en face, à travers l'électricité, mais à travers l'eau également, dans la périphérie et un peu partout sur le territoire. Donc le défi reste encore très grand et plaise à Dieu que le nouveau gouvernement qui viendra puisse continuer à travailler. On ne va pas dire un gouvernement de transition pour mettre en place les institutions. Donc on va mettre en berne les besoins des citoyens pour ne mettre qu'en place les institutions. Le défi est très grand. Quelqu'un a dit nous sommes en retard ou nous avons pris du retard. Et donc, je pense fondamentalement que nous devons nous remettre au travail.
Mmh. Uriel ?
Alors, l'auditeur qui souhaite que sa zone soit électrifiée, je pense qu'il n'y avait aucun rapport à qu'il cite l'électrification du péage installé dans sa zone de résidence. Parce que le péage est autonome et fonctionne 24 heures sur 24. Quels que soient les moyens mis en place pour obtenir des énergies, parce que un péage fonctionne sur trois sources d'énergie, le courant électrique, les plaques photovoltaïques et un groupe électrogène. C'est puisque c'est un système qui doit fonctionner en plein temps. Il ne doit pas avoir rupture. Donc, s'il sollicite de la part des autorités que sa zone de résidence soit électrifiée, c'est une chose. Sinon, ça n'a aucun rapport avec le péage. Les péages sont gérés carrément par une autre structure qui n'a pas pour charge d'électrifier des quartiers, des zones, des routes. Donc, il n'avait pas.
En tant que citoyen, lui, il voit le péage qui est éclairé.
La RSE de la SAFER.
Il n'avait pas, pas à citer le péage. Ça n'a aucun rapport.
D'accord. Jacques ?
Non, je crois que, avec les attentes de nos compatriotes, nous osons croire que, comme on a pris 2 mois pour nommer ou bien reconduire le Premier ministre, espérons que peut-être d'ici le soir, que le gouvernement puisse vraiment sortir. Il ne faut plus attendre très longtemps encore pour faire sortir ce gouvernement et que le gouvernement se mette effectivement à la tâche. Didier a parlé tout à l'heure des besoins des populations. Il faudrait effectivement qu'on puisse continuer par améliorer la situation de nos compatriotes. Bientôt, c'est la rentrée. Nous sommes à 1 mois de la rentrée scolaire. Il faudrait que les choses se mettent rapidement sur place et que les choses puissent vraiment évoluer. Donc je crois que plaise à Dieu que les uns et les autres, ceux qu'on a consultés et ceux qu'on n'a pas consultés, ceux qui vont continuer le travail, vraiment que les gens accélèrent effectivement les choses pour le bien de nos populations.
D'accord, Jacques, je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Non, je crois que je voudrais inviter une fois encore les Togolais beaucoup de courage, parce que le constat fait actuellement, c'est que il y a trop de décès actuellement que nous constatons dans notre pays. Inviter les uns et les autres à plus de prières, parce que il y a certaines choses on ne comprend pas, mais seul le grand Dieu maîtrise l'espace, le temps et l'heure.
D'accord. Uriel, votre note de fin d'émission?
Je n'ai pas une note, mais je voulais vraiment faire suite à la pensée de Jacques et me poser tout simplement la question s'il y a vraiment trop de décès actuellement. Les gens meurent tous les jours. C'est peut-être quand les grandes personnalités meurent qu'on trouve qu'il y a trop de décès. Est-ce que le ministre de l'Action sociale ou bien de la Santé va nous dire qu'il y a trop de décès actuellement? Je ne crois pas. Quand les petites personnes meurent, personne n'a d'informations. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a de petites personnes?
Non, voilà, je le dis ainsi pour dire que les gens meurent tous les jours. Sinon, bon, c'est parce que les grandes personnalités sont tombées qu'on trouve apparemment qu'il y a trop de morts.
Et que la presse en parle,
ouais,
c'est pour cela,
ouais,
que...
Justement.
D'accord, Didier?
Oui.
Bon, est-ce que moi j'ai quelque chose à dire d'autre?
Non, votre note de fin d'émission.
Non, ça j'ai pas de note, hein. J'ai pas de note, voilà, vivement. Bon, j'informe la présidence qu'il paraît qu'il y a des candidats à la consultation dans le studio ici.
Donc, qui sont ces candidats?
Ils se connaissent. Il y a le président de JPTE et d'autres présidents.
D'accord. Gosson, votre note de fin d'émission?
Oui, c'est une note d'amère déception.
Et c'est combien?
Non, ça ne peut pas dépasser pi quand même.
Pour 3,14.
Avoir, oui, pris le temps de faire une comparaison entre l'ancienne constitution et la nouvelle, je suis au déplaisir de constater et de donner raison à ceux qui critiquent amèrement cette constitution, parce que elle a été dépouillée de certaines institutions qui doivent interpeller. C'est surtout en matière, si on veut vraiment parler de lutte contre la corruption, on ne peut pas ne pas demander que les autres autorités déclarent leurs biens. Mais si on en vient à enlever ça de la constitution, c'est comme si c'était une porte ouverte pour... Je vous laisse terminer.
D'accord, vous allez terminer vous-même. Alors, merci beaucoup, Gosson Ketomanian. Merci d'être passé. Uriel Leyon, merci d'être passé. Jacques Diakouti, merci à toi d'être passé dans cette émission. Didier Assogba, c'est toujours un honneur pour nous et je suis très heureux de faire cette émission, de réaliser cette émission avec vous. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis. Toutes nos excuses une fois encore pour la défaillance dans notre ligne téléphonique. Nos techniciens sont à pied d'œuvre quand même pour rectifier le tir. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akouta a assuré la mise en ligne lors de cette émission. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.